France Inter.
Bonjour, Dominique Philippe de Rosay, Loire-Atlantique. C'est une fixation chez vous, Total, belle entreprise française qui vend du carburant. Je suppose que vous n'avez pas de véhicule, que vous allez au bureau à vélo, que vous partez en vacances à Melun. En plus, le témoin journaliste Mediapart, bon ben bonjour. Vous préférez les mauvaises entreprises qui perdent beaucoup d'argent, les canards boiteux, EDF, SNCF. Total paye beaucoup d'impôts qui renflouent les canards boiteux. C'est dommage, car vous avez souvent des émissions remarquables. Au revoir, à bientôt.
Bonjour, Julien de Saint-Jean-de-Chevelu. Juste pour vous prévenir que non, je ne vais pas acheter un livre censé m'expliquer que Total Energy n'est pas une entreprise vertueuse. Ça, bon, je crois que c'est clair. Une entreprise comme Total Energy est là pour faire du business tant qu'il y aura du business à faire. C'est-à-dire que ce monde vivra dans la dépendance aux énergies fossiles. Le problème de ces grandes enquêtes journalistiques, très intéressantes malgré tout, c'est que si on pousse la logique un tout petit peu plus loin, on se retrouve dans une posture d'attente. Qu'une entreprise comme Total Energy se comporte mieux, je pense qu'on peut attendre et espérer longtemps. On peut éventuellement plutôt réfléchir sur d'autres problématiques d'organisation dans nos sociétés, de relations de pouvoir, de comportement individuel, voire de politique publique. Mais attendre qu'une entreprise comme Total Energy, capitalistique, énorme, se comporte mieux, c'est totalement vain, à mon avis. Merci en tout cas.
Bonjour, Bruno de Picardie. Écoutez, voilà, j'appelle suite à l'interview que vous avez fait des salariés de Total Energy. Je suis moi-même un salarié de Total Energy. Est-ce que je suis fier de travailler chez Total Energy? Non. Est-ce que j'ai honte de travailler chez Total Energy? Non. En revanche, je suis fier de mon métier. Je suis vraiment fier d'aider les gens tous les jours dans ce qu'ils font. Est-ce que j'aimerais rajouter simplement, parce que j'étais sur le marché ce matin, j'entendais des gens qui descendaient d'avion et qui sortaient de Thaïlande. Pourquoi n'avez-vous pas interviewé les gens en leur disant « Est-ce que vous êtes fier d'être allé en Thaïlande, d'avoir consommé tant et tant de litres de kérosène ? Et pourquoi vous ne dites pas aussi au personnel navigant d'Air France et d'autres compagnies aériennes « Est-ce que vous êtes fier d'aller là-bas ?» Je trouve simplement scandaleux, mesdames et messieurs, que vous osiez simplement culpabiliser des salariés qui ont déjà énormément de difficultés à faire leur travail dans un milieu extrêmement pressurisé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bonne journée.
Bonjour, c'est Yves, j'appelle de Chatou. Je trouve que les commentaires qui sont faits actuellement là sur l'œuvre de Monsieur Correa, ce livre est vraiment très facile parce que pour élargir le débat et le faire en toute honnêteté, il faudrait faire une étude sur toutes les entreprises pétrolières du monde, y compris les Exxon, les grands leaders mondiaux, et se poser la question du fait que si on arrêtait la production de pétrole, est-ce que notre société pourrait continuer ne serait-ce qu'à vivre, qu'à survivre? C'est là qu'il y a le vrai débat. Pourquoi s'acharner une entreprise comme Total? Merci.
Voilà, c'est une émission qui vous a fait beaucoup réagir, celle d'hier, concernant l'enquête du journaliste Michael Correa, donc sur les mensonges de Total Energy. Une émission que vous pouvez bien sûr réécouter si vous l'avez manqué sur la page de la Terre au Carré. 01 56 40 45 45, c'est le numéro du répondeur pour nous laisser vos messages pendant le week-end, par exemple. Au sommaire de ce club, le défi d'une femme et d'un homme qui viennent de terminer une marche de 1000 km pour dénoncer les ravages des pesticides. Joseph Garrigue et François Sten, bonjour à
bonjour,
tous les deux.
Mathieu.
Et bravo, car c'est la fin d'un long périple entamé à Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales et qui vous a amené donc à Paris. Ben aujourd'hui, hein, vous arrivez tout juste. 49 étapes pour votre appel de la forêt pour alerter sur l'effondrement de la biodiversité et les pesticides qui empoisonnent. On en parle avec vous dans un instant. C'est la zone la plus polluée de France. Elle fait l'objet d'une bande dessinée que vous signez, Martin Boudot, avec Sébastien Piquet. Bonjour.
Bonjour.
Cette BD est adaptée de votre documentaire Vert de rage, diffusé sur France 5. Elle évoque l'intoxication au plomb de la population et des enfants, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais. On en parle tout à l'heure. Et puis de l'art visuel au service de l'activisme écologique, ce sera le troisième sujet de ce club avec vous, Joanie Lemercier et Juliette Bibas. Bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Vous animez ensemble un studio d'art numérique qui utilise la lumière et la technologie pour mener des actions artistiques et politiques, on va le voir. On va découvrir ensemble quelques-unes de vos performances. C'est donc un club engagé cet après-midi. Vous pouvez dialoguer bien sûr avec nos invités en nous rejoignant sur la page de l'émission et sur nos réseaux sociaux. Et puis comme tous les vendredis avant 15h, le jour où signé Anaël Verzo, sa rencontre aujourd'hui avec l'aventurier Mathieu Tordeur qui nous racontera le jour où il a pris conscience du réchauffement climatique en Antarctique. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Joël Levert et et Romane Lévy, avec Philippe Duclos et Julien Thévenot à la technique.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Francis, merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir.
De la meilleure manière, mais j'arrive plus à marcher longtemps.
Ouais, mais écoute, voilà, t'es là. Hein. Bon, bah, c'était un peu plus long que prévu. Voilà, le long du canal, en fait, c'est coupé parce qu'il y a des travaux. Et du coup, à Magdelone, on a dû faire le tour par la mer. Bon, c'était très beau, hein. On ne regrette pas. C'était
on a eu droit à quand même pas mal d'oiseaux, des tournepierres à collier, tout près de nous. La dorne de Belon, Grette Garzette, Héron cendré.
Voilà, des imprévus, des oiseaux et le botaniste Francis Allais sur votre étape Montpellier-Rennes, Joseph Garrigue et François Sten. On va donc parler avec vous de cette marche contre les pesticides que vous venez de réaliser entre la forêt de Massanes dans les Pyrénées-Orientales et Paris. Comment vous allez d'abord après ce périple de 1000 km, François Sten ?
Eh bien, on est un petit peu fatigué, mais
oui.
Pas trop de la marche en fait.
C'est vrai ?
Ouais, plutôt de toutes ces rencontres qu'on a faites, de tous ces témoignages qu'on a reçus, qui ont été éprouvants aussi pour nous.
Pourquoi ?
Parce que c'est des témoignages qui sont sur la santé des gens, sur des choses qui se passent et qui sont intolérables. Et voilà, ça a été un peu dur psychologiquement sur certains moments du trajet.
Vous y attendiez pas à cela, à cette charge comme ça ?
Non, pas vraiment, vraiment, pas à ce point-là.
Et vous, Joseph, comment vous allez ?
Très fatigué, très usé par effectivement par ce périple, comme le disait Françoise, les témoignages reçus et puis par mon regard de naturaliste aussi en traversant la France et en constatant qu'effectivement c'est pas terrible au niveau des oiseaux puisqu'on est en hiver, donc j'avais pas d'informations sur les insectes, mais en traversant on trouve plus de bandes d'alouettes, on trouve plus de bandes de chardonnerets, de verdier, de sorincini, alors qu'on devrait trouver des bandes d'oiseaux de plusieurs centaines. Et là, c'est à l'unité, petite dizaine, Donc, un peu triste de ça,
Vous avez vous venez juste d'arriver, on le disait, c'est vraiment une arrivée très récente à Paris ces dernières heures. Vous avez respecté le calendrier que vous étiez fixé, à peu près 20 km de marche par jour.
C'est ça, c'était entre 25 et 30.
C'est un peu plus long que prévu,
Qui êtes-vous tous les deux, alors, pour faire connaissance d'abord et puis comprendre un peu le sens de cette marche ? Joseph, vous l'avez dit, ancien conservateur de la réserve naturelle de la forêt de Massanes, sur les hauteurs des Albères.
Ça
a été pendant 31 ans.
Pendant 31 ans, dans cette magnifique forêt qui a été classée au patrimoine mondial en 2021 pour ses qualités naturelles.
On peut parler de forêt primaire encore à
non,
son sujet,
pas de forêt primaire, mais d'une forêt très ancienne, en tout cas qui est considérée comme un refuge glaciaire, avec une biodiversité associée absolument exceptionnelle, puisqu'on est record mondial d'études du vivant à cet endroit-là. On dépasse les 40 000 espèces répertoriées sur 336 hectares, ce qui est formidable, ce qui est un endroit. Et c'était un petit peu le symbole aussi du démarrage de cette marche, quoi. C'était qu'on partait d'un endroit extrêmement riche, classé, reconnu mondialement. Et puis de se dire, cet endroit-là, il n'est pas si protégé que ça, quoi.
Ouais. Françoise Sten, vous n'êtes pas écologue, vous,
Pas du tout, non, pas du tout. Moi, j'étais employée, j'ai pas de métier avec la nature. Mais bon, je crois, comme beaucoup de Français, j'aime la nature.
Ouais.
Comme on a pu rencontrer tous ces gens qui sont très attachés aussi à la nature et qui ont du mal à s'en sortir, quoi.
Et vous êtes la compagne de Joseph
Garrigue. C'est ça, voilà.
Alors, comment s'est née cette idée de parcourir 1000 km donc entre les Pyrénées-Orientales et Paris pour alerter sur les pesticides ? Comment ça a commencé ?
Eh ben, ça a été un peu. Ça correspond plutôt à une pulsion de vie ou une pulsion de mort. C'est la découverte, en fait, de résultats d'analyse sur les pesticides et les métaux lourds dans la forêt. Et une espèce de sentiment d'incapacité à avoir géré ça, d'avoir pu conserver ce milieu-là, ne pas avoir vu suffisamment tôt finalement cet empoisonnement, et se dire qu'est-ce qu'on fait. Et donc démarrer une marche sans but, le seul but c'était celui d'arriver au Muséum d'Histoire Naturelle et d'arriver avec une espèce de symbole, une espèce de bouquet virtuel de plein de fleurs, plein d'abeilles, plein de papillons, plein d'oiseaux, plein de tout ce qu'on étudie à la Massanes, les gastrotriches, les nématodes, les rotifères, tous les groupes, les organismes qui vivent sur cette planète et qui n'ont pas la voix au chapitre, et aller les déposer là en disant que j'ai pas envie, en tout cas on n'a pas envie qu'elles finissent dans les tiroirs des espèces disparues dans la grande galerie là du muséum. voilà, c'était un peu le but du départ. Et puis ce but a un peu évolué, puisqu'on a été rejoint, finalement, il y a une espèce de convergence des luttes.
Ouais.
Et on a été rejoint par beaucoup d'associations qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés durant la marche, et qui ont fini par, voilà, par former un collectif.
Et donc vous étiez nombreux à marcher, Françoise ?
Alors ça dépendait des jours, des fois on était 3, des fois on était 10, des fois on était 15.
Ouais.
On a démarré à 135, la première étape, mais on a eu vraiment du monde sur toute la route, sauf peut-être les trois étapes où on a marché tous les deux.
Ouais. Et comment ça se prépare une marche comme ça?
Mais ça s'est pas préparé.
Ça a été vraiment même physiquement, on l'est pas préparé.
Non.
Vous dites donc, vous êtes drôlement courageux.
On n'était pas sûr d'y arriver, c'est mais vrai. On se rend compte qu'on peut marcher en fait.
Ouais.
Et l'homme, il est fait pour marcher et on marche très bien en fait.
Donc les 20-25 km par jour finalement.
30, ça a commencé à faire long. Mais...
Ça a été, ouais.
Ouais.
Et donc le point de départ, c'était vraiment cette forêt. C'était aussi important pour vous de démarrer là, Joseph Garrigue, hein.
Moi, c'est un symbole, quoi. En plus, à la forêt de la Massane, on a une tour du XIIIe siècle qui est une tour à signaux et qui permettait à cet endroit-là de prévenir des envahisseurs qui étaient très méchants et,
ouais.
Et on prévenait le Perpignan, en fait, de cette arrivée. Et donc, on est parti de la tour de la Massane, ce jour-là, symboliquement, en disant, ils sont là, ils arrivent, et ils sont très méchants, quoi.
Ouais.
Ils font du mal.
Et alors, justement, vous avez presque un travail que vous auriez pu, d'ailleurs, informer, enfin, vous auriez pu informer l'équipe de Vert d'Orage, parce que vous procédez à des analyses.
Oui.
Et c'était ça aussi le départ de votre travail, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une base de données scientifiques pour pouvoir démarrer, et c'est vraiment ce que vous faites dans Vert d'Orage, hein, Martin Boudot.
Oui, absolument, c'est d'essayer de documenter des pollutions, des contaminations, pour être le plus factuel et le plus précis possible.
Oui.
C'est vraiment ce qu'on essaie de faire depuis 2017. Oui.
Et comment vous avez procédé là, dans la forêt, Joseph Garrigue ?
Donc c'est parti des dendrothèmes. Les dendrothèmes, c'est les cavités dans lesquelles l'eau peut s'accumuler. Et il n'y a pas que l'eau qui s'accumule, il y a aussi la matière qui descend, et ça c'est ce qu'on trouve, les dendrothèmes, c'est ce qu'on trouve dans les arbres. À la Massane, comme on a les cycles complets forestiers,
oui.
On a des très gros arbres, des très vieux arbres, et donc on a des dendrothèmes qui sont très très grandes, avec plusieurs dizaines de litres, et beaucoup de matière au fond. Et c'est en étudiant ces écosystèmes qui sont très intéressants, hein. Ça fait comme des petits lacs à l'intérieur de la forêt, qu'on s'est rendu compte, on a fait des analyses hein, de ce qu'il y avait au fond, et on s'est rendu compte que c'était pourri de métaux lourds, mais vraiment pourri, c'est-à-dire que c'était l'équivalent de ce qu'on va trouver dans les vases d'un port industriel comme Marseille.
Ouais, dans une forêt préservée, encore une fois. Hein.
Oui, et du mercure, du plomb, de l'arsenic, du cadmium. Et ces dendrothèmes, quand on est en période chaude et sèche comme l'ont été les Pyrénées-Orientales depuis 3 ans,
ouais.
C'est l'endroit où tous les animaux de la forêt viennent boire. Et donc, ça veut dire que tous ces polluants, ils sont diffusés dans la forêt, dans les animaux de la forêt, etc. Et c'est pas étonnant qu'aussi dans ces réserves, qui pourtant une réserve exceptionnelle, hein, avec encore beaucoup d'espèces, qu'on ait aussi, on s'est rendu compte de l'effondrement de la biodiversité aussi, l'effondrement des papillons, l'effondrement de tout ce qu'on voit. Hein.
Et là, vous aviez vraiment des analyses pour prouver,
voilà,
en tout cas, c'est taux exceptionnel, hein, Martin Boudot.
J'ai juste une question, comment on explique une telle pollution? Parce que de ce que nous, on a pu voir, il y a souvent une proximité immédiate avec une source de contamination, que ce soit une zone industrielle, une zone d'habitation. Vous, est-ce que vous avez des pistes?
Oui, mais ça arrive principalement par le vent. Et par l'eau, par les pluies. Et comme les arbres sont très vieux, l'accumulation se fait sur du très long terme. Donc ça ne veut pas dire qu'on est aspergé de pesticides directement, mais sauf qu'ils arrivent au fur et à mesure et ça s'accumule. Mmh. Et c'est des endroits où ça s'accumule dans la forêt. Et malheureusement, ce sont des endroits qui sont extrêmement sensibles et qui ont un impact très fort sur,
ouais.
Qui peuvent avoir un impact très fort en tout cas sur la faune.
Dans des lieux qu'on pourrait penser totalement épargnés justement, hein, comme étant les derniers lieux précisément préservés par les pollutions en tout genre, et c'est pas du tout le cas.
Ben, c'est ça, c'est qu'on est dans des aires protégées et on se rend compte que l'agriculture, ça ne touche pas que le champ, ça
ouais.
Va bien au-delà. Et c'est un petit peu d'ailleurs les résultats, vous en avez beaucoup parlé Mathieu, avec des gens très très performants, j'adore votre émission avec Marc-André Sellos, Gilles Boeuf, vous avez quand même reçu des gens formidables ici.
Des microbiologistes, hein, des biologistes aussi tout simplement, qui sont des spécialistes des sols.
Voilà, et donc on voit par exemple quand on fait l'étude des sols, quand on regarde l'étude de l'INRA, que les pesticides ils sont partout, dans les sols ouais. En forêt, dans les sols cultivés.
Et c'est comme ça que vous avez décidé de sonner l'alerte avec le botaniste Francis Allais, en imaginant cet appel de la forêt, donc appel de la forêt, et aussi donc cette thématique des pesticides parallèlement. Et pas alors. Pendant cette marche, Françoise Tell, vous avez évidemment été au courant de l'actualité avec les manifestations des agriculteurs et donc vous avez aussi appris que parallèlement à votre démarche, il y avait une pause dans le plan Ecophyto qui visait à réduire de 50% les pesticides. Comment vous avez réagi, vous, alors que vous montiez précisément à Paris pour informer la population sur le danger des pesticides quand vous avez appris ça?
Ben, notre réaction, elle a été, de toute façon, c'est les gens qui nous ont aussi bien poussés parce qu'on a été tellement encouragés sur cette marche qu'on s'est dit, ben justement, il faut y aller, on ouais. va pas s'arrêter, il faut continuer, il faut qu'il y ait d'autres personnes et notamment toute la population qu'on a rencontrée. Il faut faire entendre leur voix, quoi, parce qu'on les entend pas et ouais. y a plein de gens qui savent plus comment s'exprimer, comment dire que c'est plus possible, quoi. Il faut.
Ça vous a mis en colère, Joseph Garing, ou pas, de voir qu'on mettait une pause comme ça sur un plan quand même qui devait limiter en principe l'usage des pesticides?
Évidemment, ça m'a mis très en colère. J'avais envie de dire, Manu, descends.
Manu.
Mais non, mais c'est incroyable, quoi, de faire des choses comme ça, quoi. C'est. Enfin, c'est juste inouï. Ça touche au vivant. C'est notre avenir. Enfin, ça, une planète sans vivant, qu'est-ce que c'est, quoi. Voilà, du jour au lendemain, alors que des gens ont travaillé là-dessus pendant des années, on dit bon, on va faire une pause, les gars, hein, parce que bon, le vivant, finalement, qu'est-ce que c'est, quoi. Et là, c'est juste hallucinant. Donc, c'est une grande colère, évidemment. Et puis je rejoins un petit peu la sensation de Françoise. On a été encouragés à poursuivre, mais on a eu une image quand même terrible. C'était sur le ça s'invente pas. Hein, c'était sur le pont de Saint-Esprit quand on traverse le Rhône. Donc on démarre la marche quand même avant la grogne des agriculteurs. Et à Pont-Saint-Esprit, on est rejoint par la manifestation. Et il y a des énormes tracteurs au moment où on traverse le Rhône sur le pont qui passent à côté de nous en klaxonnant, encadrés par les motards comme si c'était des héros. Et nous, on est avec notre petite poussette là. Et là, il y a quand même un vent de se dire. Non, la vache, c'est quand même ouais. très dérisoire ce qu'on fait, quoi.
Ben oui, sauf que pas tant que ça, parce que votre mouvement, enfin le mouvement des agriculteurs est parti des Pyrénées-Orientales, vous êtes aussi parti des Pyrénées-Orientales, il faut dire que c'est quand même une région qui souffre particulièrement en ce moment, de la sécheresse, vous l'avez dit, ça fait deux ans quasiment qu'il ne pleut pas, et ça aussi, ça doit alerter finalement. Ça ferait l'objet d'une autre marche d'ailleurs, l'enjeu de l'eau, hein, aujourd'hui.
Ah ben complètement, et puis à la Massale, on est directement touché par le changement climatique, on suit 50 000 arbres... On a un observatoire depuis 25 ans sur cette forêt et on a perdu 30% des arbres adultes depuis ouais. voilà, donc le changement climatique, il est là, on est déjà dans les prévisions GIEC 50 voire 80, quoi. Donc on est 3 degrés de moyenne en plus,
2050-2080.
Ouais.
Martin Boudot, vous qui êtes journaliste, le WWF vient de publier une étude en montrant le manque d'information des Français sur la question des pesticides, un résultat qui expliquerait selon l'association le manque de réaction face, par exemple, à l'annonce de la suspension du plan Ecophyto. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai problème d'information aujourd'hui auprès du public concernant, par exemple, la dangerosité des pesticides, vous qui vraiment êtes dans cette thématique en permanence?
Alors, c'est pas une réponse simple que je vais vous donner. Quand j'enquête sur le glyphosate, en 2015, je dois dire ce qu'est le glyphosate. Je dois dire que c'est la matière active du Roundup, parce que personne ou peu de gens, à part les professionnels, les militants, le savaient. On est en 2024, aujourd'hui tout le monde sait ce qu'est le glyphosate. Donc ça peut quand même aller vite dans l'opinion publique, les thématiques peuvent quand même évoluer assez rapidement. Après, ce que j'observe, moi, c'est qu'il y a des bulles. Il y a des bulles, vous adressez à un certain type de population, malheureusement parfois on a du mal à faire venir d'autres gens. Mmh. Avec nous, la bande dessinée, on essaie justement de faire venir notamment des plus jeunes, mais c'est vrai qu'on a du mal en fait à parler à d'autres personnes que des convaincus. Ça c'est un vrai problème, une vraie problématique.
Mmh. Joanie Lemercier, ça vous parle, vous, en tant qu'artiste visuel?
Oui, c'est vrai que moi, depuis quelques années, je m'intéresse beaucoup aux questions environnementales, mais je m'en veux de ne pas m'être intéressé à des questions de société aussi importantes avant. En fait, en tant qu'artiste, j'étais un peu dans une espèce de bulle. J'utilise beaucoup la technologie dans mon travail, donc j'étais dans une espèce de bulle technologique. Mmh. Et je me sentais pas vraiment concerné par les maux du monde. Et je me sentais un peu impuissant, et donc j'étais un peu dans cette bulle de privilège. Et alors, effectivement, une fois qu'on s'intéresse à ces questions et qu'on suit, pour notre cas, c'est les mines de charbon en Allemagne, mais on suit aussi beaucoup le travail des soulèvements de la terre autour de l'accès à l'eau, etc. Et quand on met le pied dedans, on se rend compte que le monde est dans un tel état de dévastation et de destruction qu'on a envie de toucher tout le monde et on ne sait pas comment faire. Donc voilà, je pense que l'art, notamment la musique, tous les types d'art peuvent un peu aider à amener ces sujets au centre des questions, des débats, etc.
Ouais. Juliette Bibas.
Oui, pour rester dans l'histoire des bulles, nous on a aussi, de par à peu près 15-20 ans de travail, une expertise dans l'utilisation des technologies que nous on utilise de manière non productiviste et non mercantile. En fait, récemment, on a vu cette récupération, j'ai envie de dire, de la technologie qui va nous sauver. Mmh. Et comme on a cette expertise, comme on peut un peu contrer certains de ces arguments, ce sont une vraie responsabilité d'experts sur ces sujets, de dire non, c'est pas vrai, le techno-optimisme, on n'y croit pas, et on peut argumenter aussi pourquoi ça ne va pas nous sauver.
On va en reparler évidemment avec vous. Joseph Garrigue, vous êtes donc à Paris avec François Sten. C'est quoi la prochaine étape là, parce que vous vouliez aller au Muséum National d'Histoire Naturelle, vous irez quand?
Oui, alors on ira demain. Ah, alors c'était pas tout à fait officialisé, parce qu'en fait le président actuel, Gilles Bloch, n'était pas très chaud pour nous recevoir, de peur de la représaille par les agriculteurs. Et donc bon, on ira quand même symboliquement, parce que j'ai écrit quand même en lui disant que pour moi le muséum, c'était pas lui, c'était une institution. Ouais. Et
mais
que
vous serez bien reçu, j'en suis sûr.
Oui, j'en doute pas.
Et puis vous avez rendez-vous à 14h demain à l'Académie du Climat aussi,
Académie du Climat, ou de 14h à 16h, donc il y aura des interventions autour des pesticides, évidemment, ouais. Et surtout des interventions sur la santé humaine, parce que je pense que ça peut quand même faire comprendre aux gens, quand on leur dit qu'ils pissent tous du désherbant, je pense que ça leur parle un peu.
C'est vrai. Donc on pourra en discuter avec vous.
Ben voilà, on pourra en discuter à ce moment-là. Et puis après, ben évidemment, on conclut au Salon de l'Agriculture.
Dimanche. Voilà, et donc vous serez à l'Académie du Climat demain de 14h à 16h. C'est Place Baudoyer à Paris, dans le 4e arrondissement. Vous restez avec nous dans un instant. Une enquête au cœur de la zone la plus polluée de France. On continue sur ce sujet.
C'est comme un tremblement subtil dans l'air pur. Ta lueur d'un lundi d'été, une brûlure. Un délicieux baiser, une morsure, un pacte secret. Ce sont de merveilleux moments où l'on sait ces instants où nos yeux, flèches d'acier comme de fleurs et blancs, se sont croisés avant d'échanger. C'est comme un phare dans le soir, c'est comme un vœu silencieux, c'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu. Comme deux invisibles fiançailles que trahissent un geste, un détail, un regard qui couronne et qui médaille, fait battre les sangs. Quelle est la part de chance du divin et la part du hasard de l'instinct qui sur les voiles de nos destins m'impacte en secret? C'est comme un phare dans le noir, c'est comme un désir impérieux, c'est comme un phare et les autres n'y voient que du feu. C'est comme un phare dans le soir, c'est comme un vœu silencieux, c'est comme un phare, et les autres n'y voient que du feu.
Étienne Dao sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Nous allons analyser le bulbe de vos cheveux, la racine, qui correspond au niveau de plomb que vous avez déjà dans le corps. Puis, on va analyser vos cheveux pour voir ce qui se dépose au quotidien à cause de votre environnement.
Allez, à Paul. Devant, d'accord, allez, devant. Oui.
C'est bon, voilà.
Super.
Pas problème, pas problème.
Nous faisons remplir aux parents un questionnaire sur leur mode de vie ou l'année de construction de leur habitation pour recenser d'éventuelles sources de contamination au plomb. Au total, 29 enfants vivant tous dans la zone polluée.
Extrait de votre documentaire « Verte de rage », Martin Boudot, « Les enfants du plomb », c'était diffusé en 2022. Et c'est aujourd'hui l'objet d'une bande dessinée avec le dessinateur Sébastien Piquet. C'est la première bande dessinée d'ailleurs de « Verte de rage ». Vous qui avez fait le tour du monde pour montrer justement toutes ces problématiques d'intoxication par exemple aux pesticides. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'exemple du Pas-de-Calais alors en l'occurrence ?
Parce que c'est une enquête qui nous a beaucoup touchés. On y a passé beaucoup de temps et qui a eu beaucoup d'impact. Et puis pour tout vous dire, c'est une enquête qui nous hante un petit peu. Encore aujourd'hui, parce que quand on reçoit un jour un mail d'une dame qui nous dit « Est-ce que vous voulez venir enquêter dans la plus grande zone polluée de France ?» Souvent on reçoit des mails de militants comme ça qui utilisent des superlatifs parfois injustifiés. Et puis on n'y croit pas vraiment. Et puis en fait, on va se rendre compte que c'est réel, c'est en France, c'est dans une zone pauvre. Parce que la plupart des pollutions en France sont aujourd'hui dans les zones pauvres. Et on va lancer une enquête qui va avoir énormément d'impact et qui va nous lier de très très fort avec les personnages.
Donc c'est une nouvelle étape finalement, la bande dessinée, parce qu'il y a eu le doc évidemment qui a fait beaucoup parler au moment où vous l'avez diffusé. Et puis maintenant, donc vous poursuivez finalement, parce que l'histoire n'est pas terminée. Autour aussi, il faut rappeler peut-être le contexte de Metal Europe, cette usine donc, qui a fermé ses portes en 2003, et autour de laquelle vous avez donc enquêté avec, là vous l'avez découvert aussi, on parlait d'analyse tout à l'heure, analyse scientifique avec des taux de saturnisme très importants. Hein.
On va faire des... Donc, Metal Europe ferme en 2003, drame social extraordinaire, Jacques Chirac qui parle de patron voyou, on s'en rappelle tous. Oui. En revanche, on oublie un peu la pollution, le drame environnemental. Et c'était une pollution qui avait été un peu oubliée. Et nous, sur place, effectivement, on va faire des prélèvements de poireaux, des prélèvements de sol, des prélèvements de cheveux. Et on va se rendre compte d'une forte contamination du plomb qu'on pensait être disparu. Et puis, on va rencontrer des scientifiques qui vont nous dire « Mais il y a beaucoup de cas de saturnisme d'enfants. » La maladie du plomb, le saturnisme, ça attaque le cerveau et ça a des conséquences aussi, j'ai envie de dire, simples que de réduire votre capacité intellectuelle, votre quotient intellectuel. Et on va faire un grand travail aussi de recensement, de statistiques avec des scientifiques sur place pour se rendre compte d'une contamination et d'un grand cas de saturnisme.
À quelle échelle, alors, suite aux analyses que vous menez, qu'est-ce qu'on peut dire de la population et des enfants en particulier, alors du Pas-de-Calais ?
D'après notre estimation, sur un bassin de population de 20 000 habitants, sur 3 villes différentes autour de Metal Europe, on a trouvé 5 615 cas de saturnisme depuis les années 70.
Ouais. Ce sont des résultats hallucinants, évidemment. La population ne s'attendait pas du tout à cela ? Qu'est-ce que ça a produit comme effet ?
Absolument pas. On pensait que c'était une pollution qui était gérée. Alors, il y a quand même un réseau de citoyens, on en parlait tout à l'heure, de gens qui se mobilisent sur place. Une association, Pige notamment, qui...
C'est eux qui vous ont appelé, hein ?
Oui, voilà, qui vraiment font le travail depuis des années, avec leur bâton de pèlerin, qui, malgré le peu d'attention médiatique, continuent à le faire. Donc, on savait que ça existait, on ne savait pas que c'était à ce point-là. Et surtout, je pense qu'il y a on a oublié quelque chose sur le plomb, c'est que le plomb, ça se fixe sur les os. Quand une femme va être contaminée assez largement au plomb, ça va se fixer sur ses os. Au moment où elle va avoir un enfant, elle a besoin de libérer du calcium. Et donc, elle libère du plomb. Et donc, vous avez un scientifique, Jean-Marie Hagenauer, qui, dès les années 80, analyse des cordons ombilicaux des enfants et se rend compte que des enfants sont pollués au plomb en position de saturnisme avant même de naître. Et c'est pour ça que vous avez un mécanisme de recommencement comme ça.
Le plomb donc, qui expose les plus jeunes à ce risque. On va écouter un nouvel extrait de Verre de rage avec Alexis et son père José.
Quand je suis énervé, presque tout le temps, quoi. Je fais un peu de musique, quoi, pour me détendre. Puis après, je vais m'excuser, c'est tout.
Alors qu'Alexis entre à l'école primaire, les médecins découvrent de forts niveaux de plomb dans son organisme. Son père José se souvient.
Il y a eu, un dépistage, quoi. Nous, on savait pas trop, hein. Alors on l'a laissé faire, hein. Et puis, en fin de compte, le gamin, il y a eu du plomb dans le sang, quoi. Il se frappait même, hein. Il se faisait du mal. Nous, on était un petit peu plus que perdus, quoi. Hein.
Quand on me dit quelque chose, je monte vite dans les tours, quoi. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Je sais pas pourquoi je suis comme ça.
Voilà, Alexis qui monte vite dans les tours, et ça s'explique justement par ce taux de plomb, Martin Boudot. Hein.
Les enfants sur place qui ont un taux de plomb supérieur à la norme, on les appelle les plombés. C'est devenu une expression usuelle sur place. Alexis fait partie de ces enfants-là. Et le saturnisme, c'est un peu la maladie de la honte. Ça veut dire que ça ne se voit pas que vous avez un retard de prime abord. Et en fait, c'est un retard de quotient intellectuel. vous n'allez pas forcément avoir. Il y a quelque chose de très cynique, une sorte de cercle assez compliqué, c'est que pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, l'usine a pollué autour, contaminant les parents et les enfants. Les enfants ne pourront pas avoir les capacités intellectuelles pour faire de grandes études, se retrouvant à devoir retravailler dans l'usine, etc., etc., etc.
Cette usine, d'ailleurs, qui appartenait à un groupe suisse, d'ailleurs, l'histoire est racontée aussi dans la bande dessinée, hein, que vous êtes allé rencontrer, vous êtes allé en Suisse. Quelle était la réaction, d'ailleurs, de ce groupe international?
Ce groupe international qui s'appelle Glencore, que je salue, écoutez, ils n'ont pas voulu me répondre en interview, donc j'ai effectivement été obligé de les confronter lors de leur assemblée générale annuelle sur le bord du lac en Suisse. Leur réponse, elle s'est résumée à trois lignes d'un email laconique disant qu'il n'avait pas eu de responsabilité opérative lors de la fermeture de Metal Europe. Il se trouve que Glencore a été accusé d'avoir organisé non seulement sa faillite, mais surtout son irresponsabilité juridique. Ça a été un scandale assez incroyable à l'époque. Aujourd'hui, on est 20 ans plus tard, 20 ans après la fermeture. Glencore n'a pas dépensé un euro pour la dépollution du site.
Toujours le cynisme. Joanie Lemercier.
Ouais, ça me rappelle une histoire un peu similaire. Nous, on travaille beaucoup autour d'une grande mine de charbon en Allemagne, qui est vraiment pas très loin d'ici, 450 kilomètres. Il se trouve qu'elle est financée, entre autres, par BNP Paribas. Et donc, quand j'ai découvert cette histoire, moi, j'étais hors de moi. Donc, j'ai pris rendez-vous avec le directeur de la sustainability de BNP Paribas à Bruxelles. J'avais fait des images de drones, je lui ai montré tout ça, j'étais comme un peu comme maintenant hors de moi. Je lui montre la destruction des villages, les forêts rasées, les villages qui sont détruits, les cimetières qui sont excavés pour déplacer les gens. Et lui me dit, mais vous savez, les directions sont prises à Paris, c'est Jean-Laurent Bonnafé qui décide tout ça. Nous, ce qu'on fait à Bruxelles, c'est qu'on a changé nos ampoules, on a mis des LED. Et ça me met hors de moi. Et c'était la réponse officielle du responsable sustainability de BNP Paribas.
Le cynisme, toujours le cynisme. Suite à votre enquête, puisque vous dévoilez les résultats au moment d'une réunion publique, Martin Boudot, au sujet donc de ces taux de plomb chez les enfants donc du Pas-de-Calais, ça a été l'électrochoc, hein, vraiment pour la population. Donc les pouvoirs publics ont été poussés à lancer quand même une nouvelle campagne de dépistage. Donc ça a été fait. On en est où là aujourd'hui concrètement?
C'est la seule bonne nouvelle de tout cela, c'est qu'effectivement ça a bien remué les choses et qu'il y a eu un impact. Quelques semaines après les publications de nos résultats, l'Agence régionale de santé a lancé une grande campagne de dépistage auprès de 5000 enfants qui vivaient autour du site. L'État a nettoyé le site industriel de Metal Europe qu'on disait être
donc c'est
propre.
Dépollué? C'est dépollué ou pas?
Ça n'a pas été dépollué. Ça, on a rajouté 2 mètres de sol et de remblai par-dessus.
Ah oui, pour
que le plomb ne s'envole plus. Et puis, dans les cours d'école des environs dans lesquels on avait fait des prélèvements, les sols ont été changés également, mais ils avaient été déjà changés il y a près de 12 ans. Donc, on les change de temps en temps, les sols, en espérant que, cacher un peu, comme vous le dites, la misère. Et puis, non, il y a une nouvelle étape juridique. Nos données, nos résultats sont utilisés dans le cadre d'une procédure qui est en ce moment intentée par des citoyens sur place.
Et ça, c'est la vertu aussi de Verdorage, parce que vos résultats ont été utilisés pour plusieurs procédures. Il y a celle-là, mais il y en a d'autres aussi.
7 procès.
Et vous avez fait avancer les choses, vous avez fait bouger les lois aussi?
Oui, absolument. Sur une enquête qu'on avait réalisée sur les perfluorés, les PFAS. Le soir même de la diffusion de notre enquête, Barbara Pompidou, alors ministre de l'écologie, publie un décret obligeant les collectivités locales à analyser les perfluorés dans les eaux de surface et les nappes phréatiques. À l'époque, on n'avait aucun laboratoire en France qui a accepté de travailler avec nous sur les perfluorés. Un an plus tard, il y avait 40 000 analyses en France sur ces questions-là.
Joseph Garrigue, ça vous inspire quoi tout ça?
Ça nous inspire qu'on a été confronté à ça, évidemment, dans la vallée du Rhône, et en particulier Bagnols-sur-Cèze. On a rencontré des gens qui sont allés faire des prélèvements sauvages dans l'usine, je crois que c'est Sonafi, là, qui avait été... c'est une usine, en tout cas, qui était en Hollande, qui a été fermée en Hollande, qui est passée en Allemagne, qui a été interdite en Allemagne, et qui s'est retrouvée à Bagnols-sur-Cèze pour cette activité-là. Et ils sont... 1000 fois, voire, ils ont le record du monde, en tout cas, de concentration en PFAS. Et là, l'autre confrontation, c'est des jeunes femmes qui nous reçoit, qui nous hébergent, et qui apprend que, à cause des PFAS, là, elle peut plus manger ses œufs, et elle peut plus faire son jardin, que sa maison vaut plus rien, qu'elle a des problèmes de thyroïde, alors c'est peut-être pas directement lié à ça, mais en tout cas qu'il y a des problèmes de santé, qu'elle a perdu son frère. Enfin voilà, on est dans des situations de ce type-là, et on voit quand même que ça réagit pas beaucoup, quoi, mais pas suffisamment par rapport aux enjeux.
Le dossier PFAS, en tout cas, n'est pas terminé, loin de là, évidemment.
On
est,
oui.
Et
puis, bravo, bravo.
Et à l'échelle internationale aussi, parce que c'est un vrai sujet sur ces polluants éternels. En attendant, donc, la bande dessinée, la première de Vert de Rage, Les Enfants du Plomb, donc avec Sébastien Piquet, c'est chez Michel Lafon avec France Télévisions. Le prochain Vert de Rage, d'ailleurs, ce sera lundi soir à 21h05 sur France 5, autour de l'amiante.
Oui, on a réalisé une enquête d'un an et demi sur l'amiante, notamment dans les écoles en France. Un gros travail de prélèvement, encore une fois, qui a beaucoup fait parler et surtout a permis vraiment de bouger les lignes. Donc.
Ouais, amiante, nos écoles malades, c'est le titre de ce Vert de Rage, donc lundi soir sur France 5. Pourquoi vous arrêtez Vert de Rage, Martin Boudot, bientôt ?
Je trouve que c'est important de transmettre déjà. Il y a une super journaliste et réalisatrice qui s'appelle Mathilde Cusin que j'ai recrutée il y a un an et demi. On a fait de la co-réalisation et de la co-présentation pendant un an et demi. Puis je vais lui laisser la place. Mmh. Et aussi parce que 14 numéros de Vert de Rage, c'est la cause est magnifique. Elle est épuisante d'un point de vue physique et
psychique.
Et je trouve que c'est bien de prendre un peu de recul là-dessus. Et Mathilde, elle est formidable. Et Manon aussi, avec qui elle travaille, Manon de Couette, feront le travail de manière formidable, j'en suis sûr.
Vous allez soigner votre éco-anxiété, je ne sais pas comment on peut
peut-être, dire. Peut-être, oui, j'espère en tout cas.
Vous restez avec nous, Martin Boudot, dans un instant. L'art visuel et l'activisme avec nos invités.
Always on our way out. I love you, baby, but it seems we've been stuck in a trap. The storm is coming, but you still somewhere having your doubts. Guess you've been waiting all the time, but you can't get your time back. You ought to remember that, for you live to regret that. How you go front on me? On me, how you gon' front on me? How you gon' front on me? I'm gonna miss you, baby. Don't wanna let you go. I'm gonna let you go. I'm gonna let you go, 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 go. I'm gonna miss you, baby. Don't wanna let you go, but I'm gonna let you go. I'm gonna let you go, go, go. When I leave you behind to go and party, and when I'm out in the streets without no worry, I swear to God you gon' be so fucking sorry. 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 Then you gon' front on me. Then you gon' front on me. I guess you waiting on the time, but you can't get your time back. You ought to remember that, for you live to regret that. You gon' front on me. You gon' front on me. How you gon' front on me? How you gon' front on me?
Chasing the Bus, c'était Yaya Bass sur France Inter.
La Terre au carré, sur France Inter.
L'art au service de l'engagement écologique. Nous évoquons de plus en plus souvent d'ailleurs dans l'émission les différentes formes d'expression d'artistes qui utilisent leur art pour défendre leurs convictions et faire avancer certaines causes. Aujourd'hui, on fait connaissance avec vous, Juliette Bibas et Joanie Lemercier. Joanie Lemercier, donc artiste visuelle et activiste, c'est comme ça que vous vous présentez. Moi, j'ai découvert votre travail sur votre compte Instagram qui réunit plus de 100 000 abonnés. Et Juliette Bibas, vous êtes commissaire indépendante et co-directrice de ce studio, donc avec Jérôme, studio d'art numérique. Qu'est-ce que vous y faites alors exactement? On va essayer de mettre des images à nos auditories en tête.
Qu'est-ce que je fais moi?
Avec Joanie,
je fais presque tout ce que Joanie ne fait pas. Ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble et moi je fais en sorte que les projets existent dans les délais impartis, qu'ils soient montrés, vus, diffusés. Et depuis quelques temps, de par mon travail de commissaire, j'écris aussi beaucoup l'histoire qu'on veut raconter au travers des expositions qu'on développe. Donc j'essaye de mettre dans la peau du visiteur. Oui. Donc moi je prends soin de l'artiste et du visiteur, voilà, afin que le visiteur comprenne un peu l'histoire qu'on veut partager avec lui.
Joannie Le Mercier, racontez-nous un petit peu votre art pour qu'on le comprenne bien. J'invite d'ailleurs les auditrices et les auditeurs à aller sur le compte Instagram de La Terre au Carré parce qu'on a mis des visuels pour comprendre de quoi il s'agit.
Donc je suis artiste visuel, j'utilise principalement comme médium la lumière. Donc avec de la vidéoprojection, avec quelquefois des lasers, et puis la technologie aussi, qui est vraiment au cœur de notre pratique. Donc comme beaucoup d'artistes, on a des sujets un peu classiques comme la représentation de la nature. Moi, c'est un sujet qui me fascine depuis des années. J'ai eu besoin un peu de m'extraire de ce monde, de ce quotidien hyper technologique, et j'ai eu envie, voilà, de réfléchir à la représentation de ces paysages, notamment un type de paysage particulier, le sublime, qui a été beaucoup théorisé par Kant et Spinoza. Le sublime, ce sont ces immenses paysages naturels qui sont tellement grands qu'on a du mal à les comprendre. Ce sont des paysages qui vont jusqu'à l'horizon et qui ont été beaucoup représentés par Turner ou par Caspar David Friedrich. Et donc pour moi, voilà, utiliser la technologie pour représenter le ou les paysages, c'est un peu au cœur de ma pratique avec la projection notamment.
Et alors, le volet activisme, du coup, comment est-ce qu'il rentre dans votre pratique et qu'est-ce qui a été le déclic d'ailleurs pour vous ?
Alors justement, le déclic, ça a été un paysage très particulier que j'ai vu, figurez-vous, sur une vidéo YouTube sur la chaîne Partager, c'est sympa, de Vincent Verza. Vincent a suivi des activistes de Ende Gelände en Allemagne, il y a de ça 4 ans, dans une mine de charbon. Une mine de charbon qui est une des plus grandes d'Europe, qui est à 450 km d'ici, donc c'est tout près, c'est plus proche que Lyon par exemple. Mmh. Et quand on voit ces images, on a sous les yeux la fin du monde. C'est vraiment Mad Max. Faut imaginer un trou de 8 km de large, 5 km de long, 400 mètres de profondeur.
Et les machines pour excaver tout ça.
Et 23 machines, les excavatrices, les plus grandes machines du monde, qui font vraiment aussi penser à de la science-fiction et qui vont creuser pour aller chercher le charbon qui est à 400 mètres. On s'est rentré dans cet immense trou, la quasi-totalité de Paris Intramuros. Et en voyant ce paysage, j'ai eu une forme de fracture ontologique. En fait, pour moi, le monde et la technologie et le progrès allaient globalement vers le mieux. Et j'ai vu que la technologie qui est au cœur de cette mine, finalement, détruisait tout sur son passage. Donc il y a des forêts qui sont rasées, des villages qui sont détruits. C'est un désastre environnemental et social. Il y a des terres agricoles qui sont détruites. Et donc en voyant ces images, j'en croyais pas mes yeux. J'ai loué une voiture, c'est à 1h30 de notre studio à Bruxelles. Et en arrivant au bord, voilà, mon cœur s'est écrasé. Et ma vision du monde a changé. Et je suis devenu activiste radical un petit peu du jour au lendemain.
Vous étiez sur place aussi, Juliette Bibas, à ce moment-là, ou pas ?
Non, moi j'ai mis... C'était pas il y a 4 ans, c'était il y a 6 ans. Donc moi, je garde un peu plus la temporalité des choses. Moi, j'y suis allée un peu plus tard, dans le cadre d'une recherche, justement, curatoriale autour de art et géo-ingénierie. Parce qu'au-delà de la mine, c'est aussi un territoire... vraiment particulier, plein de contrastes en Allemagne. On a un charbon d'un autre temps et aussi des universités qui essayent de développer des technologies de pointe pour changer les choses. Et tout ça est dans le même territoire. C'est vraiment fascinant.
Et qu'est-ce que vous avez fait sur place alors dans cette mine par rapport à votre art alors précisément ?
Donc, au début, je ne savais pas tellement quoi faire. J'étais sidéré par ce lieu et j'ai commencé à documenter cette destruction en utilisant un drone, donc la technologie que j'utilise un peu au quotidien dans mon travail. Et j'ai commencé aussi à faire des projections laser pour assister et pour un petit peu amplifier la voix des activistes.
C'est en projetant des messages, clairement.
Voilà. En fait, en 2020, il y a une grande action, 6000 manifestants qui descendent dans la mine pour bloquer les machines. Moi, je suis avec mon drone, je fais des images et tout d'un coup, il y a comme ça un blocage. La police travaille avec l'entreprise de charbon et commence à sortir les manifestants de cette mine. Moi, je suis en haut avec un laser et je vais pouvoir comme ça, bon, c'est un peu anecdotique, mais je vais pouvoir faire une projection au laser contre le charbon. Et cette projection va être faire une centaine de mètres et va être aussi grande que la machine, que le lieu, voilà, à l'échelle de ce lieu. Et j'ai entendu une clameur de ces activistes qui voyaient ce message. Et voilà, c'est un petit peu anecdotique, on a fait des photos, etc. Mais c'est vrai que je me sentais à ce moment-là à ma place en essayant d'amplifier comme ça le message des activistes, qu'on fait beaucoup depuis.
Autre exemple, 20 juin dernier, la veille de l'annonce de la dissolution des soulèvements de la Terre, vous avez projeté des messages de soutien aux soulèvements de la Terre sur la façade de l'Assemblée nationale. On a mis d'ailleurs la photo sur le compte Instagram de La Terre au Carré, si vous souhaitez aller voir justement à quoi ça ressemble. Geste donc artistique, mais éminemment politique. Comment vous avez réfléchi à cette action, alors là, sur la façade de l'Assemblée nationale ?
Alors l'idée, c'était de créer une image pour amplifier le message et pour mettre comme ça en, en perspective un lieu de pouvoir avec un message qui est souvent caricaturé ou on qualifie les soulèvements de la Terre d'éco-terroristes, qui est totalement infondé. Et donc, à travers la création d'une image, l'esthétique et l'art, on a improvisé cette action vraiment le jour même. C'était la veille de cette annonce de dissolution. Et donc, voilà, ça s'est fait de manière très... très spontané, avec une petite équipe qui m'a aidé à faire des images. Et voilà, c'est souvent très spontané et c'est souvent...
Et donc le message, en l'occurrence, qui était écrit donc au laser...
Hein. On ne dissout pas un soulèvement.
Voilà, et donc cette photo a été très reprise, Juliette Bibas.
Oui, on est dans une société de l'image, donc on le sait que s'il y a une belle image, on met des chances de notre côté de faire parler d'un sujet dans la presse. Mmh. Et c'est un peu ce jeu-là que nous, on revendique de jouer. En étant, du coup, là c'est un bon exemple, nous on fait jamais des choses dans le cadre de rassemblements ou dans des manifestations, mais plutôt à la marge, en amont ou après, pour vraiment être dans de la création d'image, de la création du beau, et utiliser ça pour parler des choses qui nous semblent importantes.
Avec un aspect éphémère qui vous protège d'ailleurs, Joanie Le Mercier, parce que est-ce qu'on a le droit, par exemple, de projeter des images comme ça au laser sur la façade de l'Assemblée nationale ?
Alors, c'est une question un peu complexe, mais en tout cas, l'utilisation de lumière dans l'espace public est assez peu encadrée. Or, dans des cas très particuliers, comme la publicité, par exemple, on a un encadrement, on a des lois, mais effectivement, le fait aussi d'être sur une dimension artistique, quand on est interpellé par la police, etc., on a souvent des discussions autour de l'art, d'un message engagé, etc., et ça passe finalement plutôt bien.
Joseph Garrigue.
Oui, ben je trouve formidable hein, tous vos modes d'expression, parce qu'on en a vraiment besoin. Factuellement, on voit bien que tout est là, qu'on a des analyses, qu'on a l'effondrement de la biodiversité, et que si on ne sait pas faire passer ce message, donc le côté artistique, la sensibilité, aller chercher les gens, c'est tellement important. Quoi. Il faut réussir à parler. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure par rapport à on ne touche que ceux qui sont acquis à la cause. Comment on fait pour aller chercher les autres, quoi. Et c'est super important ce que vous faites. Moi, j'ai envie de dire. Et puis j'ai une petite remarque par rapport à ce que vous avez dit par rapport au paysage et tout ça. Ça m'évoque aussi quelque chose, c'est qu'il y a des paysages absolument gigantesques dans la méconnaissance qu'on a du monde microscopique. Et il y a du gigantisme là-dedans aussi, mais il y a des paysages absolument fabuleux avec des organismes qui sont absolument remarquables. On va prendre les diatomées par exemple, qui ont déjà été utilisés avec leurs petites frustules de silice là, qui sont d'une beauté incroyable. Et c'est des chiffres qui sont gigantesques quand on commence à regarder sur une écorce d'arbre de 20 cm carrés, vous avez 1500 taxons. Donc il y a une diversité absolument incroyable qui n'est pas la même sur le chêne que sur le hêtre. Et ça, voilà, c'est des explorations peut-être que vous pourriez développer.
Suggestion artistique. Juliette Bibas.
Pour la question de toucher d'autres personnes, donc nous, ça s'est fait vraiment par étapes. Il y a eu cette découverte de la mine et ce choc qui nous a mis dans un espèce de flou qui a duré presque 2 ans de qu'est-ce qu'on fait en tant que studio artistique quand on a comme ça une espèce de réalisation de la destruction du monde. Et en fait, c'est en 2020-2021 qu'on a eu l'occasion... On nous a invités à faire une grande exposition et l'attente de cette fondation d'art privé était vraiment un truc très à la mode de paysages immersifs, je vais dire type atelier des lumières ou autre, avec de la vidéoprojection et du beau. Et nous, on a conditionné d'accepter leur invitation, d'avoir la moitié de l'exposition dédiée à cette mine de charbon. Et en fait, ce projet qu'on a développé, qui est actuellement visible au 104 à Paris, par exemple, il a à ce jour touché 250 000 personnes dans 8 pays différents dans le monde. Ouais. Des personnes qui, a priori, venaient voir une exposition d'art numérique.
Ouais.
Un truc avec des choses qui clignotent et qui sont jolies et qui s'attendaient peut-être pas à ce qu'on leur parle de ces sujets-là. Donc nous, on aime agir un peu en cheval de Troie pour utiliser cette technique.
Quoi. Autre exemple avec une image pareille qu'on a mise sur le compte Instagram de La Terre au Carré, cette croisière carbone. Ça, il faut dire comment vous avez réalisé cette image. Donc il faut imaginer vraiment un bateau de croisière. Il était où ce bateau ?
Il était amarré en plein centre-ville de Bordeaux, sur les quais. Et donc, c'est un sujet que moi, je ne connais pas nécessairement très très bien, mais ce qu'on fait en général, c'est qu'on va travailler avec des activistes locaux. En l'occurrence, c'était les activistes d'Extinction Rebellion. Mmh. Et on leur fait confiance et on va un petit peu amplifier leur voix, leur message. Et c'est vrai que quand on est face à ces énormes paquebots, on se sent un peu démuni. Et la projection et la lumière nous permet comme ça d'amplifier ce message.
Donc vous projetez sur ce paquebot le mot... L'écocide.
L'écocide, qui était un peu notre façon de renommer ce paquebot, avec un nom un petit peu direct, un petit peu radical. Oui. Mais l'image étant très belle, cette image a beaucoup, beaucoup circulé. Et même les gens qui aiment la croisière, je pense, ont pu trouver cette image intéressante et peut-être se poser des questions autour d'eux.
Allez la voir en tout cas sur le compte de la Terre au Carré Instagram. Et vous aviez déjà fait des happenings devant le Parlement britannique et même Buckingham Palace, c'est ça, avec Extinction Rebellion. Qu'est-ce que vous aviez fait devant le palais de la reine?
Alors là aussi c'était très spontané. J'ai vécu 10 ans en Angleterre et beaucoup de mes amis font partie d'Extinction Rebellion. Et c'est vrai que quand ils m'ont invité à venir faire des images, des projections, tout a été improvisé. Je suis parti avec une valise à roulettes dans l'Eurostar et on se retrouve à un moment devant Buckingham Palace avec un ami. Il me dit on y va. Moi j'aurais pas tellement osé parce que ce symbole est tellement fort que j'avais une forme de retrait. Et en fait mon ami anglais m'a dit non mais allons-y. Et on a pu projeter en étant à 200 mètres, donc ça nous permet comme ça de faire, avec l'usage de la lumière, sans entrer sur place, sans dégradation, de créer des images fortes.
Juliette Bibas, pour terminer très rapidement, l'aspect technologie justement, quand on s'intéresse à l'écologie et donc à tout ce qui peut être énergivore, est-ce que ça fait partie aussi du processus de réflexion pour vous en tant qu'artiste, d'utiliser le moins possible d'outils demandant de l'énergie?
Tout à fait. C'est vraiment important pour moi de conclure sur cette question-là, parce qu'on a beaucoup parlé du constat, de l'aujourd'hui, du réel, de ce qu'il y a de terrible là-dedans. Et nous, depuis 2 ans, on travaille vraiment à développer des nouveaux projets pour créer des nouveaux imaginaires. Moi, j'aime bien dire que les artistes se rendent pas toujours compte qu'ils ont ce pouvoir magique que n'a pas l'ensemble de la population, d'imaginer des choses qui n'existent pas encore, et de proposer des alternatives possibles qui puissent être sobres et technologiques, qu'on soit pas devoir choisir entre le tout technologique ou aller vivre dans des grottes avec de la bougie. Donc nous, on fait des projets en ce moment qui utilisent le vent, l'énergie du soleil, le soleil aussi directement. On est beaucoup inspiré par des auteurs, des artistes qui travaillent autour de cette question des nouveaux imaginaires. Et je pense que c'est indispensable que les artistes participent à ça aujourd'hui.
Et vous allez participer le 8 mars prochain à la Nuit des Énergies à Paris, au pavillon de l'Arsenal. Donc vous allez présenter aussi des œuvres. Il y a l'exposition au 104 donc, qui se poursuit en ce moment. Et puis on peut voir votre travail sur le compte Instagram de Joanie Lemercier.
Et plus particulièrement, on a une exposition monographique au Centre d'art de la Matmute à Saint-Pierre-de-Varangeville jusqu'au 24 mars à 20 minutes de Rouen. Et ça, on vous invite vraiment à aller voir cette exposition.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Vert de rage, Martin Boudot, donc c'est chez Michel Lafon et puis lundi soir sur France 5. Et puis profitez de votre séjour parisien aussi pour vous reposer un peu. Joseph Garrigue et François Sten, vous qui venez de parcourir 1000 km à pied.
France Inter. La Terre au carré.
Comme tous les vendredis, on termine avec le jour où Daniel Verzo.
Je m'appelle Mathieu Tordeur, je suis un aventurier et je vais vous raconter le jour où en Antarctique j'ai vécu le réchauffement climatique. Je suis parti de la côte du continent antarctique pour rallier le pôle sud, l'axe de rotation de la Terre, dans une expédition en solitaire et sans ravitaillement. On est le 2 décembre 2018, je suis allongé dans mon sac de couchage sur mon tapis de sol. Je suis dans une lumière un peu rouge parce que la lumière du soleil, elle filtre à travers ma tente qui est rouge et donc c'est un univers un peu rougeâtre autour de moi. Donc je démarre, comme tous les matins, mon réchaud pour faire fondre de la glace et de la neige pour obtenir de l'eau. Je commence à manger un petit peu mon petit déjeuner, je m'habille, mais je remarque que la température dans laquelle je me trouve dans cette tente, elle est quand même anormalement chaude. Et quand j'ouvre le zip de la tente pour regarder où je me trouve, eh bien, je vois qu'il a beaucoup, beaucoup neigé cette nuit. Mais quand je dis qu'il a beaucoup neigé, c'est qu'il a neigé 20, 25, 30 cm de neige fraîche et que tout autour de moi, eh bien, il y a un parterre, en fait, de poudreuse. Quand l'Antarctique, c'est un continent qui est évidemment couvert de neige et de glace, mais c'est de la neige qui est compacte, qui est dure, parce qu'il neige assez peu, finalement, sur ce continent. Et là, ce matin-là, je me dis que, waouh, la journée, elle va être compliquée. Donc, ce que je fais, c'est que, eh bien, je démonte ma tente. J'organise mon traîneau comme je le fais tous les matins et je chausse mes skis. Et là, je prends un peu un coup sur la tête. Parce que tirer un traîneau quand la neige est compacte, quand la neige est dure, c'est déjà pas une partie de plaisir. Mais tirer un traîneau quand la neige elle est très profonde, eh bien, c'est comme faire un peu, si vous voulez, du vélo dans du sable, quoi. Le traîneau, les skis agrippent pas du tout la surface de manière efficace. Et donc, vous vous épuisez assez rapidement parce que mon traîneau, il pèse 115 kilos. Mes skis s'enfoncent dans la neige, dans la poudreuse. Et donc moi, je dérape sur la surface et j'arrive pas du tout à aller à la vitesse nécessaire. Je réalise très bien qu'il va pas me falloir 50 jours pour atteindre mon objectif, mais peut-être 60 ou 70 jours pour arriver au pôle sud dans la quantité de limitée de nourriture que j'ai emportée avec moi. Donc moi, je suis dans un état d'alerte, un peu terrifié aussi par ce qui m'arrive, parce que je me suis préparé pendant des années. Et puis là, dès le début de mon aventure, eh bien, ça se passe pas comme prévu. Et peut-être que ce rêve que j'ai d'atteindre le pôle sud, eh bien, ça restera un état de rêve. Ce jour, ça a été un électrochoc pour moi, parce que évidemment, le phénomène de réchauffement climatique, je le connaissais, mais le vivre dans ma chair, vraiment sur le continent, et de voir que ces chutes de neige exceptionnelles et ces températures élevées, c'est un élément qui va mettre en péril mon rêve de gosse et mon expédition, eh bien moi, ça m'a donné une forme de responsabilité pour en parler, pour témoigner. À partir de ce jour-là, j'ai changé ma manière de concevoir les aventures. Au début, moi, je vivais des aventures pour moi, des aventures sportives, des défis, des challenges, en kayak, en vélo, en 4L, en stop. Et donc depuis ce jour-là, mes projets sont en lien avec la protection de la cryosphère, toutes les surfaces glacées de notre planète. Ça passe par des expéditions avec des scientifiques, avec des glaciologues, avec des océanographes, documenter la fonte d'un glacier. Ça passe aussi par de la présence dans le milieu scolaire pour aller expliquer exactement ce qui se passe sur le terrain. Et puis, je le fais aussi avec un fonds de dotation qui s'appelle Témoins Polaires et qui œuvre pour sensibiliser le grand public et la jeunesse au réchauffement climatique et à la disparition des pôles.
Le jour où ce rendez-vous signé Annel Verzo avec Rémi Sistiaga au mixage. Lundi, on se retrouve avec notre invité Jean-Baptiste Fressos pour un livre dont on parle beaucoup en ce moment, qui s'appelle « Sans transition ».